Spotkania europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Juliette Rangeval. Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Cette semaine, nous mettons les petits plats dans les grands. Les fêtes de fin d'année sont là et la table, c'est un aspect important de la fête ici en France. Mais qu'en est-il ailleurs en Europe? Quand on dit que l'on va bien manger, est-ce que cela a la même signification pour tous? Est-ce que cela veut dire manger un repas bon pour notre santé en ces temps d'obésité, de maladies cardiovasculaires, mais aussi d'allergies? Manger des aliments goûteux et parfumés? Est-ce que manger bio, c'est bien manger? Quel rôle joue l'Union européenne dans notre alimentation? Le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes fin 2013 était devenu un symbole des excès de la globalisation. Notre alimentation, nos repas engagent décidément plus que de la nourriture. Nous allons en parler avec nos invités. Bonjour Anne Lhuissier.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse au laboratoire de recherche sur la consommation de l'INRA. Vous êtes l'auteur, avec Séverine Gojard et Faustine Régnier, de Sociologie de l'alimentation aux éditions de La Découverte. Avec nous également, Félix Zulowenstein en duplex depuis les studios de nos amis de Radio France, dans les locaux de France Bleu Bourgogne à Dijon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en agronomie, agriculteur bio et président de l'Union allemande des producteurs, transformateurs et distributeurs bio, le BELV. Camille Perrin du BEUC, chargée des questions d'alimentation au Bureau européen des unions de consommateurs, est là également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Bruxelles. Et enfin, Simone Tondo, restaurateur italien. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez une table réputée à Paris, dans le 12e arrondissement. Le Tondo, c'est le nom de votre restaurant. Bienvenue à tous. D'abord, on va partir sur le marché de Fribourg en Allemagne.
Bratwurst für Frühstück.
Genau, so, ja.
Je mange une saucisse au petit déjeuner, parce que c'est bon, tout simplement.
Als Frühstück, ja. Schon eine kleine Tradition auch.
Et puis c'est la tradition du marché de venir dans ces petits stands pour manger des saucisses. Voilà.
Et la saucisse au petit déjeuner. Simone Tondo, c'est un bon petit déjeuner pour vous, ça?
Ouais, si c'est un bon saucisse, oui.
Si c'est une... Qu'est-ce que vous prendriez pour faire un bon repas, vous?
Des bons produits, ça c'est sûr.
Des bons produits, c'est quoi un bon produit?
C'est des produits qui sont faits avec un peu d'amour et d'attention. Un bon légume qui pousse dans la bonne saison et qui n'est pas forcé à pousser pour être mis en commerce. Une belle viande qui est alimentée avec du temps. Donc une bête qui n'est pas agressée ou accélérée. C'est comme faire grandir quelqu'un plus vite que la normalité.
Félix Zulowenstein, et vous, quand est-ce que vous vous dites « là j'ai bien mangé », c'est quand vous mangez bio uniquement?
Je n'arrive pas à déconnecter ma tête de mon palais. Alors, c'est-à-dire, je veux savoir comment c'est produit. Je veux savoir comment la poule a vécu dont je mange l'œuf. Et je veux savoir comment on a agi dans la nature quand on a produit la plante que je mange. Et ces deux choses-là, ce que je goûte et ce que je sais, on peut pas déconnecter ça.
Camille Perrin, du BEUC, pour un consommateur, c'est ça qui est important, c'est d'allier l'estomac à l'esprit, comme dit Félix Zulowenstein, le goût à la provenance. Ça fait partie des interrogations des consommateurs européens?
En partie, oui. Pour le consommateur, bien manger, c'est avant tout avoir l'assurance que ce qu'il met dans son assiette ne va pas le rendre malade, que ce soit à court ou à long terme. À court terme, par exemple, on pense au risque d'intoxication alimentaire, et à long terme, on pense à l'équilibre de notre régime alimentaire, car on sait que de plus en plus, les Européens mangent trop gras, trop salé, trop sucré. Et bien manger, c'est également choisir ses aliments en connaissance de cause. Et pour ça, il faut avoir l'information nécessaire, c'est-à-dire savoir d'où viennent nos aliments, comment ils sont produits, ce qu'ils contiennent.
Anne Lhuissier, on l'entend, il y a plusieurs façons de bien manger, de ce que disent nos invités. Ça comprend quoi, là, une bonne nourriture?
Alors, en tout cas, pour ce que nous, on a vu en France, j'ai envie de dire que bien manger, ça a deux exceptions. Ça s'organise autour d'une part du goût. Moi, j'ai le sentiment de ce qu'on a vraiment vu dans nos enquêtes, le plaisir de manger, quelque chose de goûteux, parfois de roboratif, ça dépend des gens aussi. Il ne faut pas oublier cette dimension quand même. On mange aussi pour se nourrir. Ça existe encore. Ce n'est pas juste pour être en bonne santé. Je pense qu'il y a aussi le contexte de la table qui est encore très important, en particulier certainement en France. La convivialité est quand même une dimension hyper importante. Une personne qui va manger seule, on voit ça dans nos enquêtes. Souvent, les gens nous disent oh, « ben, j'ai pas mangé ». En fait, ils ont mangé, mais manger tout seul, ça veut dire manger plus rapidement, peut-être quelque chose qu'on n'a pas cuisiné. Donc, bien manger, c'est aussi ce contexte-là. Et évidemment, il y a une dimension santé qui est importante. Mais là, je pense qu'il y a des tropismes nationaux qui sont quand même assez particuliers. Je pense qu'en France, on n'est pas les champions de la sécurité sanitaire ou du souci encore vraiment. C'est pas du tout un reproche, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment deux dimensions, je pense, dans la notion de bien manger. Et la notion de santé est importante, mais elle n'est pas forcément prédominante, pas pour tout le monde, etc.
L'idée du repas qu'on fait ensemble, c'est quelque chose qui reste encore très particulier selon les pays européens. Est-ce qu'on mange de la même manière? Est-ce qu'on s'assied pour le repas en Italie comme on s'assied en France, comme on s'assied en Allemagne, Anne-Lucier?
Alors, je pourrais pas vous répondre pour tout. Ce qu'on voit, par exemple, ce qui diffère quand même pas mal d'un pays à l'autre, c'est le temps passé à table. En Espagne, par exemple, le temps passé à table est beaucoup plus important qu'en Angleterre. Et ensuite, parmi ce temps passé à table, il faut regarder le temps passé à table à la maison ou à l'extérieur. Et ça aussi, ça renvoie à beaucoup de différences. Et le temps passé à table à la maison, en général, on n'est pas tout seul.
Félix Löwenstein, vous vivez entre la France et l'Allemagne, finalement. Est-ce que vous les voyez, ces différences entre pays dans la façon de se nourrir et d'aborder le repas?
Oui, je vois ça. Ce qui vient d'être dit, c'est très visible qu'il y a un temps beaucoup plus long en France qu'on passe à table. Et on met beaucoup plus de valeur sur cela. Je vois par exemple les artisans qui travaillent ici où on est en Bourgogne. À midi, ils ferment et ils reviennent 2 heures plus tard. Et ils ont passé ce temps-là chez leur famille. Et pas comme chez moi où les artisans se mettent quelque part avec une casse-croûte pour manger très vite et recommencer à travailler. Là, il y a quand même une différence. Moi, je trouve très désirable d'ajouter à un bon manger, à quelque chose de bon à manger, une bonne ambiance et des gens que j'aime avec qui je mange.
Est-ce que, Simone Tondo, vous êtes d'accord, un repas, ça prend du temps, il faut être assis, il faut être avec des gens qu'on apprécie, pas devant son ordinateur, oui?
Oui, mais c'est incomparable à ce qu'on peut passer en Bourgogne à Paris.
Bien sûr, une différence.
C'est ça la différence. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de temps à Londres de manger par rapport à la France où on travaille 35 heures par semaine. À Londres, on travaille le double. En Italie, on ne travaille pas du tout.
Donc, on vous laisse la responsabilité de ces propos.
On a beaucoup plus de temps d'être à table. Les horaires de travail sont différents, l'emploi du temps est différent dans l'Allemagne, en Italie, comme est différent dans Londres, à Paris, et en Bourgogne, dans la Loire, et c'est la campagne.
Ce sont des vies différentes, ça aussi, le mode de vie, Anne Lucier, ça compte beaucoup.
On le voit, effectivement, Paris est quand même une exception, excusez-moi, en France, où pour les repas de midi, par exemple, en semaine, beaucoup de gens rentrent chez eux, en fait. C'est à Paris, simplement, ou dans les très grandes villes, que les gens mangent à l'extérieur. Mais sinon, effectivement, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, une coupure d'une heure et demie, 2 heures, les gens rentrent chez eux pour manger. Ouais. Donc à Paris, on a une vue très particulière, en fait, de ça.
Félix Löwenstein, quand on parle du bio, l'Allemagne est un pays pionnier. La culture du bio, est-ce qu'elle est très différente chez vous de la France? Et quand je parle de culture, j'entends le mode de production, mais aussi les modes de consommation du bio?
Non, je crois que c'est plus tellement différent. L'était, jusqu'il y a peut-être 10 ans. Mais entre-temps, la production bio et la consommation ont beaucoup augmenté en France. Et maintenant, on est pratiquement pareil.
Les 3/4 des Allemands sont sensibilisés au bio. C'est conséquent, hein, quand même, comme chiffre. C'est ce que disent toutes les enquêtes. Pourtant, il y a ce paradoxe, hein, Félix Löwenstein. L'Allemagne manque de surface bio à cultiver et importe une grande partie des produits bio qu'elle consomme. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Comment ça se fait?
Premièrement, c'est dû au fait qu'il y avait un très grand accroissement. Ça a triplé pendant les derniers 15 ans, tandis que la production n'a que doublé. C'est très bien d'avoir doublé, mais ça ne suffit pas si la consommation a triplé. Et ceci entraîne qu'on importe de plus en plus, ce qui n'est pas bon pour plusieurs raisons, pour des raisons de crédibilité, pour des raisons de sécurité, et aussi pour la raison que la production bio, ça ne produit pas seulement une bonne nourriture, ça produit aussi des bienfaits dans la nature. Et ce serait très désirable qu'on ait ces bienfaits chez nous, si on fait la consommation chez nous. Mais de l'autre côté, cette année, alors en 2016, on voit que ça tourne. On a beaucoup, beaucoup de demandes d'agriculteurs qui veulent se convertir en bio. Et je suis assez confiant que ça va rattraper.
Camille Perrin, est-ce que le bio, et notamment le bio qui n'est pas produit localement, on est certain qu'il est bio, est-ce que les consommateurs ont toutes les garanties sur justement ce label? Qu'est-ce que vous en pensez au BUC?
On ne s'est pas spécifiquement penché sur le cas de l'agriculture biologique, mais évidemment on s'intéresse de très près aux contrôles qui sont réalisés sur nos aliments. Et on assiste malheureusement à une situation qui est un petit peu la même partout en Europe, c'est-à-dire une diminution des ressources que les gouvernements européens consacrent à ces contrôles. Il y a une baisse des effectifs des services vétérinaires partout en Europe. Il y a de moins en moins d'inspecteurs qui peuvent réaliser ces contrôles, de moins en moins de contrôles sont réalisés. Du coup, effectivement, il y a de plus en plus un risque que certains produits soient vendus pour ce qu'ils ne sont pas.
Félix de Levenstein, ça reste bio même quand on ne parle plus de production locale? Vous disiez c'est un problème parce que le bénéfice pour la nature, c'est quand le bio est produit localement, bien sûr, hein, qu'on le voit le plus.
Non, laissez-moi d'abord dire une chose. La définition du bio est la même dans toute l'Europe. Il y a une législation européenne pour ça, et ça englobe aussi le contrôle, c'est-à-dire les contrôles suivent le même règlement partout en Europe. Bien sûr, il y a des différences entre les administrations et les capacités administratives dans les différents pays d'Europe. Mais en principe, c'est la même chose, et entre autres, ça veut dire que chaque ferme et chaque
exploitation
des produits bio est contrôlé une fois par an au minimum. Alors là, il n'y a rien à faire à ça. Et la définition du bio, ça définit la façon dont c'est produit. Et c'est pas une question de distance ou de localité ou de régionalité. Alors si j'achète du thé produit aux Indes qui est bio, ça suit la réglementation européenne aux Indes. Et c'est bien clair qu'on peut pas produire ça ici chez nous.
Mais est-ce qu'on reste dans l'esprit du bio?
Disons, si j'ai le choix entre des fraises produites chez moi ou ailleurs, je vais toujours prendre ce chez moi. Mais il s'agit les bienfaits de la production bio pour l'environnement ou bien pour le bien-être animal et tout ça sont les mêmes ici et n'importe où c'est produit. Alors prenez par exemple, il y a des importations de bio venant de la Chine chez nous. On peut dire que c'est pas très bio si ça vient de tellement loin, c'est vrai. Mais de l'autre côté, si vous savez le dégât que cause l'agriculture en Chine, moi je suis content pour chaque mètre carré qui n'est plus conventionnel en Chine, même si c'est à nous de leur aider avec notre marché de faire ça.
Simone Tando, quand vous composez un menu pour votre restaurant entre un produit bio, un produit produit localement, un produit à la mode, dont vous savez qu'il va plaire à vos clients, parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Vous choisissez comment? Vous choisissez quoi?
J'essaie de pas décider par rapport à le phénomène des modes, parce que c'est pas ça, bien choisir un produit. Après, par rapport à l'analyse qu'a fait monsieur Félix, c'est ça? Sous la provenance des produits, moi, je suis d'accord sur différents points et pas d'accord sur d'autres. C'est que les tomates, il faut qu'ils sortent au soleil. Donc il n'y a pas la vérité dans le bio ou pas bio. Il y a besoin du soleil, une bonne tomate. Donc si moi je viens en Alaska, je ne les achète pas là-bas. Je les achète où il y a du soleil, qu'il soit bio ou pas bio, ça va être quand même bien fait. Parce que c'est la nature qui les suit. Après, évidemment, sur le côté biodynamique et tout ça, je suis d'accord qu'il faut suivre une réglementation, il faut que l'agriculture les fasse suivre.
Et Est-ce que connaître votre producteur, connaître la façon dont le produit a été élaboré, est-ce que ça compte pour vous? Est-ce que vos clients vous posent des questions?
Ça m'intéresse plus à moi qu'à mes clients, parce que les clients, de toute façon, ils écoutent et ils croient à ce que tu dis. Donc pour moi, c'est important d'être correct avec moi-même avant d'être correct avec les autres. Et c'est très important, oui, de connaître le producteur, parce qu'au moins tu connais les soucis, les problématiques et l'envie qu'il a eu derrière la production de ce produit.
Camille Perrin, on entendait Simone Tondo dire que ce n'était pas forcément la première préoccupation de ses clients, la provenance des produits. Est-ce que c'est une préoccupation de plus en plus forte des consommateurs? Est-ce qu'ils se demandent d'où ça vient?
Oui, là on aurait un son de cloche un petit peu différent, parce que au contraire, pour le consommateur, c'est un élément extrêmement important et de plus en plus important. Le BEUC a réalisé une enquête en 2012, en juillet 2012, donc c'était avant le scandale de la viande de cheval. Et cette enquête avait démontré qu'elle a été réalisée dans 4 pays, en France, en Autriche, en Suède et en Pologne. Et elle a démontré que 70% des consommateurs dans ces pays veulent savoir d'où viennent leurs aliments, tous produits confondus. Et quand il s'agit de la viande, ou des produits laitiers, ou du poisson, donc des produits animaux, ça monte jusqu'à 80 à 90% des consommateurs qui veulent connaître l'origine de leurs aliments. Donc il y a vraiment un intérêt extrêmement fort, et qui a été renforcé encore davantage depuis le scandale de la viande de cheval.
Anne Lhuissier, est-ce que ça compte dans l'alimentation, la provenance? Oui, les gens mangent quand même toujours les produits qui viennent de près de chez eux, non? C'est quand même, ça reste très fort dans l'alimentation, ou pas du tout? Maintenant, on trouve de tout sur les marchés et on mange ce qui est à la mode.
Oui, c'est ça. Déjà, est-ce que tout le monde s'approvisionne sur les marchés? C'est quand même la grande distribution, je pense, qui est la principale pourvoyeuse des produits alimentaires. Donc maintenant, effectivement, les provenances, sont affichées. Mais ça dépend comment on interroge les gens. Mais je pense qu'avant la provenance, il y a quand même une histoire de prix, à mon avis, d'accessibilité, de gamme, de choix et donc de prix. Donc je ne peux pas dire qu'on s'en fiche de la provenance. Évidemment, c'est important. C'est peut-être pas important pour tout le monde. Les critères ne sont pas partagés.
Est-ce que c'est comme pour le bio? Est-ce que tout le monde mange du bio en France, par exemple?
Oui, alors ça, j'ai essayé. Je suis pas hyper à l'aise sur le bio. J'ai juste vu que le marché, effectivement, progresse très vite depuis plusieurs années, en fait. Je crois qu'avec la Suède, la France, c'est un des produits où ça progresse le plus. Donc, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, les grandes surfaces se sont mises à vendre du bio à des prix qui deviennent quand même plus accessibles, je pense, que ce qu'on peut trouver sur les marchés, par exemple. Maintenant, est-ce que tout le monde consomme du bio? C'est compliqué à répondre à votre question. Et surtout, ce qu'ont montré certains collègues, je pense au livre de Claire Lamine qui s'appelle « Les intermittents du bio », c'est que les gens peuvent arriver très progressivement au bio sur une famille de produits, par exemple. Donc on passe pas au bio total sur tous les produits. Pourquoi? Parce que les gens veulent pas forcément consommer tout bio, mais estiment que, par exemple, le lait pour leur enfant, ça va être très important qu'il soit bio, ou plutôt les fruits ou les légumes pour éviter les pesticides, ou la viande, parce qu'il y a eu plein de scandales. Donc voilà, c'est très difficile de généraliser. Et puis on peut arriver au bio très progressivement, de cette façon-là.
Félix Löwenstein, c'est aussi le cas en Allemagne, hein, où on le voit, on mange beaucoup bio, le pays est précurseur, et en même temps, on mange beaucoup de viande qui vient du hard discount.
Mais c'est comme ça a été dit, s'il y a 75% des gens qui mangent du bio, il n'y en a que peut-être 2% qui ne mangent que du bio, et tout le reste achète un produit bio de temps en temps. Et bien sûr, ceux qui s'intéressent à manger beaucoup de viande et qui ne s'intéressent pas tellement à la question comment ça a été produit vont toujours préférer de l'acheter conventionnel, parce que c'est beaucoup moins cher. Disons, c'est pas tout à fait vrai, ça coûte moins, mais les vrais coûts ont été beaucoup plus grands, mais ça, c'est pas au comptoir qu'on les paye, mais c'est
pas répercuté sur le consommateur.
Ouais.
Carrefour de l'Europe, bien manger en Europe. On marque une pause sur RFI, la radio de l'Europe et la radio du monde, le temps de prendre les dernières nouvelles de l'actualité.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Juliette Rangeval. Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Carrefour de l'Europe, deuxième partie consacrée aujourd'hui à bien manger en Europe. Derrière cette expression, bien manger, se cachent des significations très différentes selon qu'on veille à sa ligne, à sa santé, qu'on pense plaisir ou qu'on pense à la planète, selon la région d'où l'on vient aussi, selon sa classe sociale, son éducation aussi. Alors, est-ce qu'on mange bien en Europe? Est-ce qu'on mange bien partout dans l'Europe? C'est ce que nous essayons de savoir aujourd'hui avec nos invités. Anne Lussier, sociologue de l'alimentation. Félix Zulavenstein, docteur en agronomie et agriculteur bio. Camille Perrin du Bureau européen des unions de consommateurs. Et Simone Tondo, chef italien du restaurant Tondo à Paris. On en parlait tout à l'heure, hein, la traçabilité des aliments, c'est l'une des préoccupations des consommateurs européens. En Italie, c'est une question importante. C'est ce que nous allons voir avec nos amis de Courrier International. On appelle Carole Lyon à Rome. Bonjour Carole.
Bonjour Juliette.
Carole, d'après le journal Il Fatto Quotidiano, la mozzarella va redevenir italienne.
Oui, en fait, si le journal se réjouit, c'est parce qu'il sera bientôt obligatoire d'indiquer l'origine du lait qui a servi à fabriquer la mozzarella, la ricotta et tous les autres produits italiens en circulation dans le pays. Tout ça devra figurer sur l'étiquette. En fait, comme la France avant elle, l'Italie a obtenu cette autorisation de la Commission européenne au mois d'octobre. Et bien sûr, la Fédération des agriculteurs est absolument ravie puisque ça va favoriser les producteurs de lait italiens. Il faut savoir que les Italiens figurent en très bonne place parmi les grands consommateurs de produits laitiers. En moyenne, un Italien mange 20 kilos de fromage par an. Et pourtant, Il Fatto Quotidiano souligne que les trois quarts du lait UHT qu'on trouve en Italie ont été importés. Pire, il s'agit souvent de lait en poudre reconstitué. Et pourtant, tout ça n'est absolument pas indiqué sur l'étiquette des fromages et des produits laitiers actuellement en circulation en Italie. Le petit bémol avec cette histoire d'étiquetage, c'est que ça ne concernera que les produits qui sont fabriqués en Italie et à destination des consommateurs italiens. Donc pas d'étiquetage obligatoire pour les fromages qui sont importés en Italie et pour ceux que l'Italie fabrique et exporte.
Carole, est-ce que c'est important pour les Italiens de savoir que les produits sont fabriqués chez eux?
Oui, c'est un sujet assez sensible, le Made in Italy, parce qu'évidemment les Italiens tiennent particulièrement à leur patrimoine culinaire et ils savent aussi que ce patrimoine est très apprécié à l'étranger. Mais le problème, c'est que les produits italiens se font très souvent doubler sur les marchés étrangers par du faux Made in Italy, c'est-à-dire des produits dont le nom a une consonance italienne mais qui sont fabriqués ailleurs et qui sont donc pas du tout italiens. Et le magazine International a souligné par exemple que sur le marché américain, 7 fois sur 8, les produits italiens, enfin vendus comme tels, ne sont en réalité pas italiens du tout. Évidemment, donc toutes ces copies sont un outrage pour la tradition italienne, mais c'est aussi un sérieux manque à gagner pour la production italienne.
Carole Lyon de la rédaction de Courrier International. Courrier à retrouver en kiosque, hein, bien sûr, ou sur Internet. L'adresse est courrierinternational.com. Camille Perrin, les grands scandales alimentaires qui ont éclaté en Europe ces dernières années, c'était des scandales autour de la viande, hein, à chaque fois. Aujourd'hui, quelles sont les règles européennes pour encadrer la viande dans l'Union?
Il y a toute une série de règles qui s'appliquent, qu'il s'agisse d'hygiène, de traçabilité de la viande, les règles aussi qui relèvent des contrôles qui doivent se faire dans les abattoirs, dans les usines qui produisent des produits à base de viande. Donc c'est un produit qui est très très réglementé et malheureusement, bon, on peut faire énormément de contrôles, mais on ne peut pas garantir un risque zéro de fraude, ça c'est impossible. Mais le fait que l'origine doive être indiquée, l'origine de la viande dans des produits transformés par exemple, ça peut être un élément qui permet aux transformateurs d'avoir une meilleure maîtrise de leur chaîne d'approvisionnement. Parce que ce que le scandale de la viande de cheval a permis de mettre en lumière, c'est l'incroyable complexité et longueur des chaînes d'approvisionnement alimentaire qui existent actuellement. Et c'est quelque chose dont les consommateurs n'avaient pas conscience.
Est-ce que, vous le dites, ça n'empêche pas complètement les risques de fraude? Est-ce que dans l'industrie agroalimentaire, est-ce que parmi les producteurs de viande, est-ce que certains ne contourne pas toujours la règle quand on parle, par exemple, d'additifs, d'antibiotiques aussi, hein, mais de donner plus de couleur à la viande, plus de saveur avec des marinades, des choses comme ça. Est-ce que là, de ce côté-là, il n'y a pas une zone un peu grise?
Il y a tout un tas de stratégies que les fabricants utilisent pour jouer avec la réglementation. Donc, par exemple, on peut jouer avec les appellations des produits de viande. En Belgique, par exemple, il faut savoir que ce qu'on appelle l'américain préparé, donc c'est de la viande hachée, ne peut être fait qu'à partir de viande hachée de bœuf ou de cheval. Mais si vous transformez un petit peu l'appellation, alors du coup, vous pouvez utiliser la viande de porc. Et si le consommateur n'est pas assez attentif, s'il ne lit pas de manière très précise la liste d'ingrédients sur l'emballage, il peut être trompé. La même chose avec les additifs qu'on peut utiliser pour donner une certaine couleur au produit. Pour le consommateur, c'est très difficile de savoir exactement ce que contiennent les produits de viande ou les préparations de viande qu'il achète. Et là encore, il y a moyen de jouer avec la réglementation, puisque selon qu'on a une préparation de viande, donc c'est un produit qui est très proche de la viande fraîche et qui contient, par exemple, en plus des condiments, quelques additifs, ou selon qu'on a un produit à base de viande qui est plus transformé et qui a perdu les caractéristiques de la viande fraîche, eh bien, selon la catégorie dans laquelle on se classe, on peut utiliser plus ou moins d'additifs. Mais ça, le consommateur n'a aucune idée. Il voit un produit qui, sur l'emballage, ressemble énormément à de la viande fraîche et ne s'attend pas à ce que ce produit contienne des additifs, etc. Donc le consommateur lui-même doit malheureusement faire preuve de beaucoup d'attention quand il réalise ses achats au supermarché.
D'autant que le marketing essaye un petit peu de le perturber dans son effort d'attention.
Ah, tout à fait. Il y a tout d'abord la photo que vous voyez sur l'emballage très souvent ne reflète absolument pas ce qui est à l'intérieur du paquet. On a tout à l'heure parlé de l'origine. Il y a aussi tout un tas de façons de suggérer une origine qui n'est pas celle du produit. Par exemple, avec des couleurs, des drapeaux, même le type de police que vous utilisez. Par exemple, des lettres grecques pour donner l'impression que le produit vient de Grèce. Donc, il y a vraiment tout un tas de stratégies qui sont allées à la limite de la légalité et qui sont employées par les fabricants.
Un huissier, c'est quand même l'acte le plus basique qui soit, de vouloir se nourrir, de pouvoir se nourrir. Et en fait, on se rend compte qu'il faut avoir un sacré degré d'éducation. On n'est pas tous égaux devant la bonne nourriture.
Tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut, comme ça vient d'être dit, il faut quand même être sacrément intéressé et instruit, j'allais dire, pour arriver à lire ces étiquettes, à les comprendre, à savoir ce que ça signifie. Donc oui, ça c'est très compliqué, c'est pas juste, j'allais dire d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le débat qu'il y a en ce moment sur la possibilité en France de mettre des codes couleurs sur certaines familles de produits, où quand même, il faut le dire, les industriels sont très,
réticents,
merci, exactement. Alors que, je dis pas, c'est pas la panacée, effectivement, ça donnera pas l'ensemble des informations que contiennent, par exemple, les paquets de céréales, mais ça peut quand même, je pense, faciliter ou orienter des choix. Moi, ça me semble vraiment important. Je plaiderais plutôt en faveur de ces codes couleurs.
Félix Löwenstein, est-ce que, justement, tout ce marketing, toute cette littérature autour des produits qu'on trouve en supermarché, est-ce que ça contribue pas à changer les habitudes alimentaires? Est-ce que ça amène pas beaucoup de gens vers le bio, finalement?
Oui, parce que les gens commencent de plus en plus à se méfier de cette nourriture industrielle dans deux sens, provenant d'une agriculture industrielle qui traite les animaux non pas comme des êtres, mais comme des morceaux dans un processus de fabrication, et qui traite le sol non pas comme quelque chose de vivant, mais comme un substrat dans lequel on applique la chimie pour faire pousser. Alors là, les gens voient de plus en plus que cet éloignement des façons naturelles de produire la nourriture vont au détriment de notre santé et de toute notre vie. Et de l'autre côté, il s'agit de la façon dont est travaillée transformer cette nourriture, avec beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui n'ont rien à faire avec de la nourriture, qui sont de la pure chimie, et de plus en plus d'organismes, de gens réagissent mal à tout cela. Alors c'est pour ces raisons-là que les gens de plus en plus s'intéressent à la nourriture bio. Un auteur américain, Michael Pollan, dit deux choses très intéressantes. La première, c'est que l'homme est le seul animal qui a besoin de professeurs pour se nourrir. Et la deuxième, ne mangez pas quelque chose que votre grand-mère n'aurait pas reconnu comme nourriture. Je crois que ces deux conseils-là peuvent très bien nous guider à revenir à quelque chose de raisonnable.
Ça vous plaît, ça, Simone Tendio?
Oui, la deuxième, j'adore, Félix. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de culture à la maison. Donc, le problème, c'est que vu qu'on ne mange pas ensemble, au moins dans les grandes villes ou dans les villes où ça bouge, moi, je n'ai jamais déjeuné avec ma copine depuis 8 ans, je pense, depuis que je vis à Paris. Ça, c'est point. Et on n'échange pas, on ne connaît rien et on pense de tout connaître parce qu'à la télé, on voit 2-3 trucs. Et donc, quand j'arrive au resto...
Vous ne posez pas beaucoup de questions sur ce qu'il y a dans l'assiette.
Ouais, voilà.
On le voit, c'est une question d'éducation, ça se ressent alors dans l'assiette, Anne Huissier. Est-ce que l'argent aussi quand même, parce que ça coûte de l'argent de bien se nourrir, hein, ça coûte cher. Hein.
Ah, je... une objection.
Simone Etendo n'est pas d'accord, mais je vous écoute.
Oui, moi j'ai l'impression que ça coûte quand même un peu. Enfin, je sais pas, il faut discuter, mais si on veut des aliments de qualité, y compris des choses produites localement.
En ville, certainement un peu
oui,
plus cher.
Alors que... peut-être qu'effectivement, à la campagne, c'est un peu moins cher. Non, mais avant de faire à manger soi-même, il faut quand même acheter des produits. Pour acheter des produits de qualité.
Ça, à Paris, elle coûte entre 12 euros et 18 euros. Moi, avec 18 euros, je fais moitié de la course de la semaine.
Félix Levenstein, vous vouliez réagir?
Oui, parce que la question, c'est ça coûte cher ou non. Ça dépend pas en premier lieu du prix des produits. Ça dépend de ce que j'achète. Si j'achète des choses tout préfabriquées, où je paie plus d'argent pour le plastique de l'enveloppe que pour le contenu. Et aussi la question, quel pourcentage de ma nourriture consiste en viande, ce qui est la nourriture la plus chère. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde au Danemark, à Copenhague, la ville avait décidé d'avoir un 90% de bio dans toutes les cantines de la ville. Les écoles, les jardins d'enfants, etc., etc. 66 000 repas chaque jour. Ils ont réussi ça jusqu'à l'année passée, 90%, 66 000 repas, pour le même prix qu'avant, c'était une condition. Et comment ils ont fait? Ils ont diminué la nourriture préfabriquée, augmenté la nourriture fraîche, diminué la viande et diminué les déchets. Et ça c'est justement les paramètres qui nous permettent d'acheter une bonne nourriture et de ne pas trop dépenser pour la nourriture.
Alors ça nous ramène à cette question, qu'est-ce que c'est que bien manger? Parce que peut-être aussi que selon le milieu d'où l'on vient, on considère qu'un plat préparé, acheté, tout prêt, c'est bien, c'est bon, ça fait gagner du temps, c'est convivial, c'est un goût qui plaît. Anne Huissier.
Oui, ça fait gagner du temps, ça incontestablement, sûrement... Souvent, les plats préparés sont plus gras. Ça peut correspondre aussi à des goûts, hein, concrètement. Donc ça, je pense que ça participe de ça, notamment les enfants qui sont certainement habitués à ce type de goût aussi. Donc je pense que acheter des plats préparés qui peuvent être un peu plus chers, ça permet de ne pas perdre de l'argent si tout le monde le mange. Parce que faire finalement des repas qui seraient peut-être meilleurs pour la santé, plus élaborés, etc. Si finalement les enfants les mangent pas, dans certains milieux, c'est une vraie perte, quoi. Donc il y a aussi un consensus sur ce genre de plat.
Est-ce que quand on élabore un menu, on fait attention au sucre, au sel, au gras? On fait juste attention au goût?
Si on veut faire un bon menu, on est obligé de faire attention à ça. Ce qui est problème, c'est que si on passe 2 heures assis sur une chaise et on mange plein de produits différents, s'il n'y a pas un équilibre, après le corps il va rejeter tout ça. Donc ce qui arrive, qu'on tombe malade, que jour après on dit j'ai pas bien digéré. Un très bon repas, comme dans la cuisine japonaise Kaiseki, c'est un repas qui a un équilibre entre les mets.
D'accord, et entre les saveurs.
Ouais.
Et on pense aussi, Simone Etendo, à la question des allergènes, parce que c'est quand même une question de plus en plus envahissante.
De mode.
C'est une question de mode. Hein. Mais vous avez beaucoup de clients qui vous demandent de servir un plat sans lactose, sans gluten, sans fruits à coque.
Pas la moitié de la clientèle, mais un tiers, oui. Mais c'est juste des échos qu'ils ont entendu devant un café avec des copines ou des copains. Mange pas ça parce que c'est pas bien, fais attention à ça. Ils ont tous à l'intolérance au gluten maintenant, au lait. Et je mange pas de porc, agneau. Je suis allergique à l'agneau, j'ai tout entendu. Donc on est prêt là.
Camille Perrin du Buc, sur ces questions d'alimentation, alors il y a beaucoup d'effets de mode, on entendait Simone Etondeau en parler, mais il y a aussi beaucoup d'allergies qui apparaissent. Pour les associations de consommateurs comme la vôtre, c'est une obligation de s'intéresser à ces questions d'allergènes et de produits trop gras, trop sucrés, trop salés?
Oui, certainement, bon, je ne réagirai pas à l'allergie ou à l'intolérance aux oignons, mais pour ce qui est du lactose et du gluten, ce sont des intolérances. Après, quand on parle d'allergie, concrètement, il y a 14 allergènes qui doivent être étiquetés sur les aliments quand il s'agit de produits pré-emballés. Et depuis 2014, décembre 2014, le consommateur doit aussi avoir une information sur les allergènes présents dans les aliments quand il va, par exemple, chez le boulanger, chez son boucher ou même au restaurant. Donc, il y a différentes façons de fournir cette information, mais elle doit être disponible à la demande du consommateur et il doit être au courant du fait qu'il peut le demander cette information. Pour ceux qui souffrent d'allergies, c'est une information essentielle pour leur santé. Maintenant, en ce qui concerne l'obésité, là encore, on ne peut pas nier que c'est un problème de santé publique partout en Europe. Les dernières statistiques faisaient état de 1 adulte sur 6 qui est obèse en Europe et pour les enfants, c'est 1 sur 3. Donc c'est vraiment un problème très sérieux. Et là, en fait, ce sur quoi on doit agir principalement, c'est essentiellement les produits transformés. On ne parle pas des plats que vous allez consommer au restaurant, mais on s'intéresse vraiment aux produits qui sont consommés de manière très fréquente par les Européens, adultes comme enfants. Et il y a beaucoup d'efforts qu'on voudrait voir réalisés, en tout cas, parce que ça ne va pas assez loin pour le moment, en matière de ce qu'on appelle reformulation. Ça consiste à réduire les teneurs en sucre, en sel et en graisse d'aliments type produits laitiers, boissons sucrées, donc réduire les teneurs en sucre, céréales pour le petit déjeuner, parce que pour certaines, elles contiennent jusqu'à un tiers de sucre, ce qui est inacceptable, surtout quand on parle de produits pour enfants. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là.
Félix de Levenstein, quand on est producteur bio, on pense aussi aux questions d'allergènes, j'imagine, parce que c'est pas antinomique.
Oui, je crois qu'il faut aller au-delà des questions qui viennent d'être discutées. Parce que non seulement nous avons changé complètement la façon dont nous produisons notre nourriture comparé à ce que notre corps a eu comme coévolution pour des milliers d'années, mais aussi on a changé radicalement les plants et les animaux par la façon de les élever. Alors, c'est-à-dire on a mis le poids sur la quantité, on a mis le poids peut-être sur la forme, par exemple de la carotte et tout ça, de la production de lait par vache et tout ça, mais en même temps on a changé la nature de ces animaux et la nature de ces plants. Et je crois qu'il est vraiment l'heure de commencer à s'y intéresser et de voir si ça n'est pas la cause de cette explosion qu'on peut constater autour de chacun, des gens qui ne supportent plus différentes choses, soit c'est des oignons ou soit c'est lactose ou quoi. Je crois accepter que c'est normal, c'est pas acceptable.
Est-ce que du coup, les problèmes de santé publique, les problèmes d'environnement, est-ce que tout ça va amener les consommateurs européens, Camille Perrin, à arrêter de manger de la viande en Europe, par exemple ?
Alors, on n'a pas réfléchi de manière très, très approfondie à cette question. Il y a de plus en plus de débats autour de la viande et je pense que c'est aussi quelque chose de culturel. Les tendances sont différentes selon les pays européens. Mais certainement, on consomme probablement trop de viande, que ce soit pour notre santé ou pour l'impact environnemental. Mais de là à dire que les consommateurs vont arrêter de manger de la viande, c'est peut-être exagéré. Et puis, on entend parler maintenant de cette viande produite en laboratoire. Donc, est-ce que c'est une alternative à la viande qu'on connaît actuellement ? Ça, je n'en sais rien.
Il paraît que ça coûte encore assez cher. Hein. On m'a donné le chiffre de 16 000 euros pour produire un steak haché. c'est pas encore demain dans nos assiettes, mais il y a d'autres sources de protéines. Est-ce qu'on voit un intérêt autre qu'un intérêt de mode ou un intérêt de niche, par exemple, pour les steaks végétaux? Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ce genre d'aliments, Anne Lucier?
Pas vraiment, mais juste pour revenir sur la viande, par exemple. En tout cas, en France, ce qu'on constate, c'est que depuis au moins 30 ans, on voit la consommation de viande rouge baisser tendanciellement au profit plutôt des viandes blanches et donc moins grasses. Et ça, alors avec évidemment des pics à chaque crise sanitaire qui a touché la viande, mais finalement, ce déclin avait commencé avant ces crises. Et puis la courbe continue de descendre, si vous voulez. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même une tendance comme ça à une moindre consommation, au moins de viande rouge, pour des raisons de santé. Je pense que ça fait très longtemps qu'on dit qu'on en mange trop et qu'elle est trop grasse, etc. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est... Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments. Enfin, il y a des gens qui font des recherches sur le végétarisme, mais c'est difficile de chiffrer en France combien il y a de végétariens. Surtout, c'est pas le plus important. Moi, j'ai le sentiment qu'on voit de plus en plus de gens qui vous disent je mange presque plus de viande ou très peu. Ils se déclarent pas du tout végétariens parce que c'est pas du tout le mode de vie qui va avec. C'est pas ça le problème. Mais effectivement, des gens qui commencent. Alors, pour des raisons d'environnement aussi, pour des raisons de sécurité sanitaire. Je pense au dernier reportage qu'on a vu sur les abattoirs en France. Enfin, c'est juste effrayant. Donc aussi pour la cause animale. Pour tout un tas de raisons, des gens qui commencent à beaucoup moins manger de viande. Alors évidemment, là encore, ça dépend beaucoup des milieux, etc. Mais un peu comme le vin, finalement, j'ai l'impression que... Est-ce qu'en France, on n'aurait pas ce mouvement où on boit beaucoup moins de vin, mais meilleur, on se fait plaisir, on achète une bouteille plus chère, mais finalement, le vin de table a quand même presque disparu,
oui,
je l'ai dit.
Dans l'aile, oui.
Ouais, tout à fait. Et je sais que les professionnels de la viande se demandaient si finalement, ils n'étaient pas un peu sur les mêmes tendances.
Malgré tout, il nous faut des protéines hein, pour nous nourrir. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, recommande de se nourrir d'insectes. Les adeptes des protéines végétales vante les mérites de la viande sans viande. Certains chercheurs ne jugent justement, on en parlait avec vous Camille Perrin, que par la viande de synthèse. C'est l'éclairage de Maria Afonso.
Et si on commence maintenant, en cette période de fête de fin d'année? C'est l'époque où l'on cherche de nouvelles idées de repas et où l'on veut régaler ses convives tout en les étonnant. Pour cela, il y a de nouvelles productions qui ne demandent qu'à conquérir nos assiettes. Par exemple, on peut toujours manger de la viande, mais la recette aura un peu changé, comme dans la boucherie d'Isabelle Ben-Simon, une boucherie végétarienne.
Moi, ce que je veux, c'est simplement sensibiliser les gens, leur dire de manger plus de légumes, mais avec les codes de la viande, c'est-à-dire la texture, le goût, les fibres. Mais voilà, en diversifiant, en mangeant moins, je pense que c'est bien pour tout le monde, en fait, tout simplement.
Dans le monde, en moyenne, 42 kilos de viande sont consommés par an et par habitant. Pour répondre à cette demande, qui va sûrement encore augmenter, Mark Post, un chercheur hollandais, a été le premier scientifique à créer un steak haché in vitro, c'est-à-dire un steak de laboratoire. En 2013, deux experts en cuisine goûtent ce premier steak de synthèse, leur verdict.
Je m'attendais à ce que la texture du steak soit plus douce. Il y a pas mal d'arômes en plus, mais je sais qu'il n'y a pas de graisse. Le goût est assez intense, ça ressemble à de la viande en moins juteux.
La texture ressemble à de la viande. Ça manque surtout de gras. Et ça ressemble assez à un hamburger classique.
Manger de la viande qui ressemble à de la viande ou bien ne pas en manger, s'il est exact que l'on peut se passer de viande, on ne peut pas se passer de protéines. La solution ? Croquer des insectes. Et ça n'a rien d'extraordinaire, notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. C'est plus rare en Europe, et particulièrement en France, où l'on mange des grenouilles ou des escargots, et c'est ce qui choque un peu nos voisins, mais de là à manger des criquets, vers, sauterelles et autres bestioles à six pattes, c'est plus difficile à avaler. Pourtant, ces petites bêtes sont déjà reconnues comme la nourriture du futur. Très riche en protéines, jusqu'à 75%, les insectes dans nos assiettes dégoûtent ou intriguent, mais quel goût ont les vers de farine grise ou les grillons? Réponse de deux consommateurs.
Il y a une vraie barrière psychologique quand on va faire la première bouchée, mais une fois le cap passé, c'est vrai que c'est pas vraiment choquant.
Bon, on pourrait comparer ça à une chips avec un petit goût de cacahuète et quelquefois un petit goût de maïs.
Alors Juliette, on oublie nos réticences, on goûte un criquet avec le sourire, s'il vous plaît.
Je ne sais pas si manger des insectes, ça rentrera un jour dans les mœurs, vous pensez, Anne Lucier ?
Alors là, franchement, ce n'est pas du tout issu de la recherche, mais je sais que mon fils, avec sa classe, l'année dernière, ils sont allés à une expo, je ne sais plus où c'était, sur l'alimentation durable. On leur a fait goûter des insectes et ils sont revenus tous assez émerveillés, pas du tout effrayés. Donc peut-être que les futures générations, finalement, vont être socialisées à un nouveau type de nourriture et vont l'accepter mieux que nous.
Et Camille Perrin, vous disiez, alors la viande de synthèse, c'est pas pour tout de suite. Les insectes, on s'y intéresse au bœuf ?
On s'y intéresse, mais c'est pas pour tout de suite non plus, parce qu'il y a quand même tout un processus réglementaire avant que ce type de produit puisse être commercialisé, parce qu'officiellement, les insectes comme aliment, c'est pas permis en Europe, parce que c'est considéré comme ce qu'on appelle un nouvel aliment, et ça doit faire l'objet d'une procédure d'autorisation avec évaluation des risques pour la santé, etc. Donc c'est assez complexe avant que ces produits puissent être commercialisés. Il y a quelques pays, dont la France, la Belgique et le Danemark, par exemple, qui tolèrent quelques espèces d'insectes pour l'alimentation humaine, mais c'est encore débutant. Et effectivement, il y a comme une barrière psychologique, et peut-être que les futures générations y seront plus, réceptives ou ouvertes. Et puis, il faut aussi voir comment ces insectes seront produits, parce que quand on parle de l'Afrique ou d'autres pays dans le monde, la façon dont ils les consomment, la façon dont les insectes sont... et ce ne sont pas produits, alors que là, on parlerait vraiment d'élevage d'insectes. Donc, est-ce que, à grande échelle, selon la façon dont ils sont nourris, il n'y a pas de nouveaux risques sanitaires qui pourraient apparaître? Il faut vraiment faire attention à ça. Et tout à l'heure, on parlait d'allergies. Il faut aussi savoir que certains insectes peuvent entraîner des allergies un peu similaires à celles que peuvent provoquer les crustacés, par exemple. Donc il faut, malgré tout, être vigilant là-dessus. Mais effectivement, c'est sans doute un aliment d'avenir.
Merci Camille Perrin, merci à tous nos invités. Carrefour de l'Europe continue sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette émission, la réécouter, en savoir un peu plus sur nos invités sur RFI.fr. À la réalisation Guillaume Munier, Carrefour de l'Europe. Rendez-vous dimanche prochain à 18h10, heure de Paris. Tout de suite, c'est le journal sur RFI.